Bonjour à tous. Merci infiniment d'être venus si nombreux à cette soirée de lancement du partenariat entre cette chaire Habitabilité de la Terre et Transition Juste que je dirige à la Sorbonne et le MUMIG, le musée de Millau. Et pour cette soirée de lancement, j'ai l'immense honneur d'avoir à mes côtés Philippe Descola et Vinciane Després. Et je suis très émue que vous soyez là ce soir. Alors, cette chaire, elle a 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'occupe. Et je vais faire un petit retour en arrière pour vous présenter un petit peu comment les choses se sont faites. Alors, préexiste à cette chaire Habitabilité d'abord un rapport au terrain et ensuite un rapport aux idées. Il se trouve que j'ai ouvert il y a plusieurs années, à la fin de ma recherche au Kamtchatka, un chantier assez vaste que j'avais alors appelé ethnométaphysique des éléments. Ce chantier théorique me venait de l'ethnographie avec les Évennes et ouvrait des pistes qui s'intéressaient aux rapports entre des collectifs autochtones et les éléments dits abiotiques de leur milieu, l'eau, le feu, l'air, la terre. Je m'intéressais aux manières de faire persister ou de réinventer des dialogues avec ces éléments depuis des cosmologies non naturalistes. Depuis ce point de départ qui a coïncidé avec la fin de mon terrain et la déclaration de guerre en Ukraine, j'ai entamé de nouvelles recherches en Patagonie. J'ai commencé par enquêter sur la transition énergétique et les énergies dites renouvelables et décarbonées, telles qu'elles sont implémentées sur ces hectares fantômes que continuent de constituer les terra nullius ou barren land, riches en ressources naturelles, avec tous les guillemets qu'il faut, peu anthropisé et donc prêt à être exploité sur des bases supposément plus vertes et justes que ce qui a été fait jusqu'à présent. Dans ce cadre, j'ai lancé une enquête sur un projet titanesque d'hydrogène vert en Patagonie chilienne, au sein duquel de nombreuses compagnies telles que Total Eren, HIF, Siemens, Porsche et de nombreuses autres ont obtenu des milliers d'hectares de concessions pour y implanter des éoliennes et des usines de désalinisation de l'eau pour produire de l'hydrogène dit vert. C'est à partir de ces 2 piliers, les rapports non naturalistes aux éléments qui aujourd'hui se lèvent avec la question du changement climatique et la question de la transition énergétique, censée répondre de manière efficace aux enjeux des crises écologiques et climatiques, tout en soutenant nos modes de vie modernes, que débute le travail, ce travail que je souhaiterais collectif autour de la chaire Habitabilité de la Terre et Transition Juste. Alors depuis 2 ans, et avec les séminaires que j'ai organisés à la Sorbonne, nous avons commencé par interroger les concepts et les idées qui sous-tendent cet intitulé, c'est-à-dire l'habitabilité, le climat et la transition énergétique. L'habitabilité, comme tous les concepts, est historiquement située. Il faut donc, pour évaluer sa pertinence actuelle, se rendre réflexif sur sa généalogie. Une fois cette généalogie retracée depuis différentes focales disciplinaires, il nous faut également examiner s'il peut être opérant pour d'autres humains que les seuls modernes. En effet, l'un des enjeux majeurs lorsque nous reprenons des concepts à notre compte réside dans la possibilité qu'ils ne soient pas, une fois de plus, coloniaux, c'est-à-dire imposant leur normativité à tous ceux qui n'agissent pas depuis la même cosmologie, les mêmes affects, les mêmes pratiques. Raison pour laquelle nous nous sommes attachés depuis 2 ans à remonter le fil colonial de l'habitabilité depuis le XVIe siècle jusqu'aux enjeux actuels de la transition et à tenter d'esquisser en quoi il pouvait éventuellement se défaire de ce stigmate colonial depuis l'intérieur de cette histoire également. Le troisième volet du cycle que nous ouvrons ce soir même avec Vinciane et Philippe s'intitule « Réponse alternative aux crises écosystémiques ». Néanmoins, pour cette troisième année, il nous a semblé indispensable de réfléchir au dispositif même, au cadre dans lequel ces réponses pouvaient être formulées, raison pour laquelle nous avons envisagé ce partenariat avec Katia Fersing et le musée de Millau. Le point de départ, c'est celui-là. les travaux sur l'habitabilité et le climat ne peuvent pas se contenter d'une perspective critique qui oublie, voire oblitère, les réflexions politiques et situées sur des enjeux qui nous concernent collectivement. Nous sommes en effet confrontés à une problématique assez sérieuse. Il n'existe pas, ou très peu, d'espace d'expression des attachements, à part sous des formes très patrimonialisées. Activer ces formes patrimoniales en les rendant vivantes et partageables avec les citoyens et divers collectifs qui composent un territoire, ce à quoi s'attelle par ailleurs le MUMIG depuis plusieurs années, permet de se confronter au défi de comment habiter aujourd'hui face et avec les crises écologiques et climatiques, de l'effondrement de la biodiversité aux menaces climatiques actuelles, à ces éléments qui se lèvent, qui nous assèchent, qui nous engloutissent, qui nous soufflent, qui mettent en péril nos attachements aux êtres et entités qui tiennent nos existences. Le point de départ de notre réflexion collective est que les réponses à ces questions ne peuvent pas continuer d'être recapturées par des logiques gestionnaires et ou technosolutionnistes. Si elles ne peuvent plus seulement venir des aménageurs et ou des institutions de la conservation, mais s'actualiser depuis des existences et des pratiques situées, alors il nous faut réinventer des espaces de pensée partagés. Cet espace, nous proposons de l'appeler un refuge pour la pensée. Il ne s'agit aucunement d'animation culturelle ou scientifique, qui elle aussi relève la plupart du temps d'une logique gestionnaire de la culture institutionnalisée, du patrimoine, de la recherche, etc. Nous cherchons à proposer ce que nous appelons la culture devienne un espace de construction commune de ce à quoi nous tenons. Si nous souhaitons que les réponses à cette question soient plurielles et situées, il est essentiel que les questions d'habitabilité ne soient pas uniquement formulées par les chercheurs et chercheuses qui les pensent. Ces réponses ne sont pas uniquement d'ordre théorique, mais de l'ordre de l'expérimentation face aux crises auxquelles collectivement nous faisons face. Si le cadre académique et universitaire reste évidemment important, l'enjeu d'un refuge pour la pensée est de délocaliser les espaces de pensée des lieux dans lesquels ils ont été confinés. Nous souhaitons ici que ces enjeux soient partagés entre chercheurs, citoyens et à partir de problématiques situées et que les réponses s'inventent et se formulent à partir d'elles. Donc, plutôt que de vous mettre en présence de réponses, et avant de passer la parole à Vinciane et Philippe, je vais commencer par vous mettre en présence de questions. De questions que soulève l'idée d'habitabilité pour nous donner un petit peu de grain à moudre dans la reformulation du problème. Et c'est littéralement des questions que je me pose depuis 2 ans. Nous sommes censés être en présence d'un concept qui met enfin en avant le caractère radical de la crise, parce que contrairement à ses prédécesseurs, eux aussi venus des sciences du système Terre, anthropocène, limites planétaires, etc., il prend en compte autre chose que les seules variables du climat. L'existence même de l'humanité est remise en question en même temps que sont affectées les conditions matérielles de l'environnement physique, chimique, biologique permettant sa subsistance. Première question, le concept d'habitabilité diffère-t-il parce qu'il est également censé prendre en compte les dimensions existentielles de ces enjeux? Si c'est bien le cas, quels effets de précision ou de pluralisation est-il à même de produire et quels vont être les attachements que nous allons nommer, les êtres et entités que nous allons convoquer pour l'enrichir et le constituer? Deuxième question. L'habitabilité introduit une nouvelle perspective en envisageant la vie, non pas depuis le point de vue d'un organisme en particulier, ni depuis celui de l'évolution des espèces dans l'histoire, mais comme la totalité des êtres vivants sur Terre dont l'existence dépend du maintien de la stabilité d'un ensemble de variables environnementales entre des bornes. Comment est-il possible, en prenant le problème uniquement avec ce cadrage-là, de répondre aux enjeux soulevés par l'habitabilité autrement qu'en passant par la gestion, le management des ressources, les régulations institutionnelles, c'est-à-dire par des types de réponses largement naturalistes pour faire que la Terre reste habitable. Plus encore, cette manière de penser le corps de la planète n'entraîne-t-elle pas, si nous ne prenons pas garde aux modes sur lesquels va être réinstrumentaliser évidemment le concept, puisque c'est toujours la problématique des concepts, un rapport allopathique à la planète. C'est-à-dire que si on pousse la question jusqu'au bout, est-ce que cette question d'habitabilité ne nous emmène pas à la possibilité décomplexée d'en passer par la géo-ingénierie pour soigner la Terre? Ensuite, l'habitabilité est censée donc problématiser plus efficacement notre rapport à la vie et à la Terre. Elle le fait dans un certain espace de réflexion sur les enjeux que nous venons de soulever. Mais elle laisse dans l'ombre deux questions principales. La question de l'échelle, c'est-à-dire de savoir, avec l'échelle globale, qui est à même de se saisir du problème et qui est à même d'y répondre. Donc, quid des manières dites mineures de saisir la problématique, celle des collectifs qui se posent la question des bonnes relations à tenir sur un territoire situé pour qu'il reste habitable. Faisons encore un pas de plus et questionnons le concept sur un plan métaphysique. Y a-t-il un changement de cosmologie possible lorsqu'on utilise ce concept? Est-il à même de faire varier nos postures sur ce qu'est une terre habitable? Est-il potentiellement ouvert aux médecines dites alternatives, promues par nombre de collectifs autochtones, féministes, militants qui œuvrent sur leur territoire? Encore une fois, c'est des questions que je vous livre. Enfin, posons la question de habitable pour qui? Quid des territoires où l'habitabilité n'est pas pensée sans relation interspécifique avec des êtres et entités autres qu'humaines? C'est le point des Gwich'in avec lesquels j'ai travaillé en Alaska, par exemple. Si l'Alaska n'est plus habitable par les caribous car on y exploite du pétrole, elle ne l'est plus pour les Gwich'in qui dépendent spirituellement et physiquement des caribous pour survivre. La question des caribous et de la régulation ou de l'empêchement de l'exploitation devient non plus seulement une question d'écologie, mais de droits humains. C'est aussi le cas des Évennes avec la rivière Itcha. Si la mine de lithium pollue la rivière, l'habitabilité à Itcha n'est plus possible pour personne. Par extension et sur un autre plan, si les hommes sont envoyés à la guerre dans le collectif d'Itcha et ne peuvent plus œuvrer à l'habitabilité dans les camps de chasse, tout s'effondre également. C'est ce qui se passe actuellement. C'est encore le cas chez les Aymara et Quechua. Si trop de mines sont creusées, si les montagnes sont perforées à l'excès et si l'équilibre entre ce qui est dessus et ce qui est dessous se rompt, là encore, l'habitabilité n'est plus possible, non seulement pour des questions écologiques, mais parce que les formes de dialogue avec les entités non humaines deviennent impossibles, l'extractivisme rompant la possibilité même des liens. Peut-on faire de l'habitabilité un concept à même de prendre en compte toutes ces variables pour devenir véritablement performatif? C'est la question que j'aimerais qu'on se pose dans ces mois et années à venir. Sur ce, et avec l'idée de la performativité des idées, des mots et des images que nous posons dans le monde, et pour qu'elles redeviennent centrales dans nos manières de formuler nos attachements à ce qui vit, à ce qui flue, ce qui traverse et ce qui déborde, je vous laisse en compagnie de Philippe et Vinciane. Merci.